Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir d'accueillir ce dimanche Samira Sedira. Bonjour.
Bonjour Samia.
Merci d'être là, vous nous parlerez Samira Sedira au cours de ce Voix au chapitre, des gens comme eux. C'est le titre de votre ouvrage. Il vient de sortir dans la collection La Brune, aux éditions du Rouergue. Vous présentez Samira Sedira, vous menez une double carrière de comédienne et d'auteur. Et vous êtes aussi bien connue chez nous à Beurre FM. On vous aime, on aime votre écriture. Vous aviez publié, c'était en 2013, un ouvrage, un premier roman qui était L'odeur des planches, qui rappelait là justement cette l'odeur des planches, rappelait votre double carrière, comme je le disais il y a un instant. C'était en 2013, vous avez eu la récompense du prix Beurre FM Méditerranée, il faut le souligner. Et vous avez surtout été interprétée dans ce texte au théâtre par Sandrine Bonner, l'excellente comédienne, c'est dire la reconnaissance de cette écriture et de ce premier livre prometteur qui s'appelait L'odeur des planches. Vous avez publié ensuite d'autres livres, dont le second qui paraissait deux ans après, qui était Majda en août aussi.
Exactement.
Et ensuite paraissait La faute à Saddam en 2018, qui lui aussi a reçu une excellence puisqu'il a eu le prix Ex Brailia des lycéens l'année dernière.
Tout à fait.
Ce début 2020, donc, des gens comme eux, vient de paraître et peut-être s'arrêter dans cette première partie sur cette double carrière que vous menez, à la fois d'écriture et de comédienne. Alors comment on passe de l'écriture à la au théâtre et enfin qu'est-ce qui fait que vous avez été animé depuis si longtemps de cette expression artistique, de ces expressions artistiques et littéraires?
Alors la première expression artistique qui m'a animé, c'est l'écriture, à vrai dire. Le théâtre, j'y suis tombée, si je puis m'exprimer ainsi, par hasard. C'était vraiment un hasard total. Je savais qu'il y avait quelque chose qui devait s'exprimer artistiquement chez moi, mais je ne savais pas sous quelle forme. Et donc, c'était à la faculté, je me souviens très bien, où j'étudiais LEA, langue étrangère appliquée. En fait, je m'étais totalement gourée. Hein. J'avais pris une orientation pour suivre un ami, mais qui ne me convenait absolument pas. Je m'ennuyais profondément. Et c'est en passant devant la cafétéria.
Il y avait un cours de théâtre.
Il y avait une affichette sur laquelle on recherchait des membres pour le théâtre universitaire. Je me suis dit, tiens, ça me parle. Ça me parle quand même mieux que LEA. Langue étrangère appliquée. Donc j'y suis allée et j'ai découvert le théâtre. Et là, ça a été vraiment une grande découverte.
D'accord.
Donc c'est en fait, mes premières amours, c'est l'écriture. Dès lors que j'ai pu tenir un stylo, j'ai adoré écrire, j'ai adoré lire. Et ensuite, le théâtre est arrivé après.
Et cette écriture qui date depuis longtemps, j'imagine, dans votre jeunesse, ou en tout cas, ce que vous écriviez était de... à la fois dans un imaginaire, dans du romanesque, on était, parce que on reviendra sur ces premiers titres que j'évoquais dans ce que vous avez publié, hein, de lisible du public, puisqu'après, il y a des écritures dans les tiroirs, hein.
Oui.
Et il y a des écritures qui se lisent, qui sont à notre portée. Et dans ces deux premiers livres, par exemple, on voit quelque chose de très intime, de très personnel, de votre histoire, de l'ordre, de la biographie peut-être. Donc
oui.
Voilà, cette écriture, c'est aussi l'écriture que vous ressentiez tout au début. Souvent les auteurs, on pense qu'ils écrivent leurs histoires et après on...
C'est peut-être une porte d'accès,
voilà.
En tout cas. Une porte d'accès qui est, comme vous l'avez dit, l'autobiographie. Peut-être qu'une fois qu'on a parlé de soi et qu'on s'est débarrassé d'une certaine façon de soi, on peut passer à de la fiction. Voilà. Et de toute façon, même dans la fiction, on parle de soi, voilà. Mais d'une autre façon. Mmh. C'est toujours soi qu'on va chercher. Il y a toujours, c'est toujours les thèmes, puisque vous avez tout lu, les thèmes sont récurrents et c'est toujours des choses qui reviennent, y compris dans le dernier. Donc, c'est vraiment une façon de se chercher quand on écrit. On parlait tout à l'heure de comment on passe de l'un à l'autre.
De l'un à l'autre, voilà.
Du théâtre et de l'écriture. On ne peut pas faire les deux à la fois. Enfin,
Bien sûr.
Ma part, c'est compliqué parce que c'est un investissement total.
Bien sûr.
Que ce soit le
théâtre. Entière, en l'occurrence.
Voilà.
Quand
s'y donne pleinement. Donc, quand je répète un spectacle, je ne peux pas écrire. Quand j'écris, il est difficile pour moi de répéter. Donc, c'est vraiment passer de l'un à l'autre. Et l'un nourrit l'autre.
Voilà.
Ouais. Ce sont deux choses totalement différentes l'écriture, c'est vraiment un travail très solitaire, dans le silence, avec une véritable introspection, tandis que le théâtre, c'est un travail d'équipe, c'est très bruyant, c'est très joyeux, ça n'a rien de solitaire, on cherche, on s'énerve, oui, il y a aussi beaucoup des moments de joie, dans l'écriture aussi, hein, bien sûr, c'est aussi difficile et aussi joyeux, mais ce sont deux, l'un se nourrit de l'autre.
Et dans les écritures théâtrales, ce que vous avez interprété au théâtre ont été des textes que vous, sur lesquels on vous a sollicité pour écrire, pour être comédienne en théâtre, ou c'est vos textes à vous?
Que j'ai joué?
Que vous avez joué, oui.
Non. Vous avez joué? Alors.
Du classique, des choses
qui a été, oui. Oui, oui. Des choses très connues, des choses classiques, des choses contemporaines. Il y a un texte, en revanche, que j'avais adapté. C'était La Métamorphose de Kafka, qu'un metteur en scène m'avait demandé d'adapter. Donc, je l'ai adapté. Il m'avait demandé de jouer le rôle principal, Grégoire Samsa, le petit fonctionnaire qui se transforme en cancre là. Mais je n'étais pas visible, en fait. Il n'y avait que ma voix. J'étais sur scène, sous un drap, un immense drap, dans un lit. Et on n'entendait que ma voix. Mais la voix était quand même en direct. Et ça, c'était très libérateur.
Ah, l'expérience, oui, intéressante, puisque ouais, du coup, le public pouvait se douter que c'était une femme qui disait ou...
Ben, je ne sais pas, je crois qu'ils étaient entre deux. Parce que comme je parlais assez bas dans le micro, quand je parle assez bas, ma voix est assez grave. Ouais. Et, comme pour beaucoup. Et je pense que les gens ne s'imaginaient pas qui...
Puis peu importe, peut-être.
Peu importe, voilà. Complètement. En tout cas, pour moi, c'était libérateur, puisque je n'avais pas le regard des spectateurs sur moi. Et donc, je pouvais m'exprimer librement. C'était une très belle expérience.
Mais dans d'autres pièces de théâtre, vous avez été visible du public, pour le coup.
Bien sûr, voilà. Oui. Là, c'est vraiment la seule fois.
Et là, c'est une expression importante pour vous, cette scène, ces planches-là du théâtre.
Ah ben oui, et curieusement de moins en moins. C'est l'écriture est en train de prendre beaucoup de place dans ma vie.
D'accord.
Ouais. Ouais.
Donc on vous verra moins sur scène, mais il y aura une écriture théâtrale peut-être.
Non, parce que j'aime autant. Non, l'écriture théâtrale. En fait, j'écris pour le théâtre quand on me le demande, parce que ça ne vient pas forcément de moi. J'ai pas cette envie ou cette nécessité d'écrire pour le théâtre. Ça ne me vient pas vraiment. Alors, quand on me le commande, je me dis, tiens, ben, ça va peut-être me booster pour écrire un texte de théâtre. Et du coup, là, je le fais. Mais sinon, ça ne me vient pas.
Alors,
moins de plaisir, en tout cas, à écrire.
Et comme vous êtes attaché à l'écriture, on sait bien aussi que l'écriture est au pluriel. Il y a des écritures. Une écriture théâtrale, une écriture nouvelle, une écriture romanesque.
Oui, ça peut prendre plusieurs formes.
Voilà, ça prend plusieurs formes. Et celle qui vous plaît le plus, c'est l'écriture...
Romanesque.
Romanesque, bien
ouais,
sûr.
Ouais.
Parce que c'est dans celle-ci que vous sentez bien, vous prenez le temps aussi, parce que en reprenant votre bibliographie, on a quoi, trois romans, c'est le troisième, on va dire ça comme ça.
C'est le
quatrième.
Ah oui, donc voilà. Vous distinguez peut-être les genres, non? Vous voulez dire que le premier est plutôt autobiographique et que les trois autres...
Non, parce qu'il est dans une écriture romanesque aussi, même quand il est autobiographique.
Mmh. Ouais.
Ce que je veux dire, c'est que oui, on est dans le quatrième, mais il faut du temps, puisqu'il y a des années, hein, entre les deux, il y a un an, plus d'un an à chaque fois, donc... Faut que ça mûrisse,
ça prenne
le temps de...
Et puis quand on le propose à un éditeur, souvent l'éditeur a déjà sa
programmation éditoriale
donc,
de l'année.
Donc... Voilà, exactement. J'allais dire sa saison comme au théâtre, mais c'est sa programmation éditoriale. Et en général, c'est toujours 9 à 1 an après qu'il est publié. Donc il n'est pas publié immédiatement. Ça, c'est assez rare quand il est publié immédiatement.
Vous avez des retours de ces trois premiers romans là, des retours de succès, comme on dit, hein. Ouais, succès de librairie, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, mais par rapport à des rencontres, vous avez fait des rencontres avec le public. On a eu l'occasion d'échanger à Beurre FM, mais aussi dans des festivals. Donc, je sais que c'est important aussi pour un auteur, des salons du livre.
Oui, c'est très important parce que
c'est le retour des lecteurs ou la présentation des lecteurs probables, surtout, parce que des fois tout. Vous présentez votre livre dans un salon et les lecteurs n'ont pas lu, mais ça leur donne envie de vous lire.
Oui, c'est ça. Et puis moi, je pense que c'est le lecteur qui fait le livre, puisque c'est lui qui le lit. Un livre qui n'est pas lu, c'est un livre qui n'existe pas, c'est un livre mort. Donc, pour moi, et puis il y a tellement de lectures différentes d'un texte, puisque chacun est unique et chacun va le lire à sa façon. et avec sa propre lecture. Donc voilà, c'est le lecteur qui fait le livre.
Le lecteur, c'est comme l'auteur, je pense, moi. Il est très personnel dans le rapport avec son, avec le livre. On a une manière très singulière de lire un livre. On lit d'une traite ou on prend le temps de le lire.
Tout à fait, et chacun a sa façon de le lire.
Alors vous savez, je vais vous faire une confidence sur ma manière de lire, moi. Moi, je ne veux pas, quand je rentre dans un livre et je vais rentrer dans le vôtre, je ne veux pas tout lire d'un coup. Je me dis, je m'en garde pour demain, vous savez.
Ah oui, comme, comme un gros gâteau.
Comme une douceur. Voilà, comme une c'est douceur. Agréable aussi de lire. Voilà.
Ou comme un bon plat.
Comme un bon petit plat, voilà. Ils sont meilleurs le lendemain. En tout cas, c'est une suite pour le coup. Le lendemain, c'est la suite du livre. On va se retrouver dans un instant, Samira Sedira. Je rappelle, vous êtes l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche et nous parlons de votre double carrière d'écriture. Vous êtes comédienne et auteure et nous allons parler des gens comme eux. Votre tout dernier livre qui vient de paraître dans la collection La Brune aux éditions Auerberg. Je vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons ce rendez-vous ce dimanche. Je rappelle que je reçois Samira Sedira. Nous parlons des gens comme eux. C'est le titre de son roman. Il vient de paraître dans la collection La Brune aux éditions Le Rouergue. Des gens comme eux. Qui sont-ils, ces gens comme eux? Ben, on va en parler. Je vais être obligée de raconter un tout petit peu le livre parce que quand même... Donner envie aux auditeurs, auditrices de lire votre livre, c'est quand même donner envie de raconter brièvement l'histoire. Une femme raconte. Elle raconte sa vie dans un village isolé de montagne. On y voit une description, le paysage, le froid, des gens, souvent de peu d'ailleurs, au bistrot, parce que c'est là que tout se dit, tout se sait. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut entendre d'abord. Et enfin, ce qu'il faut savoir et entendre, c'est la folie meurtrière d'un homme qui a tué une famille. Ensuite, on se retrouve au tribunal, l'audience, et surtout, surtout, l'incompréhension de cette femme. Cette femme qui raconte, c'est la femme de ce mari tueur. Tout au long du livre, on voit que les chapitres sont ponctués de sa vie, quand elle était avec cet homme. Avec ses filles, avec ses enfants, avec l'entourage, etc. Jusqu'au jour où, à cette audience, quand les témoins arrivent, pensent que cet homme était normal. Pourtant, il y a eu cette folie meurtrière, l'horreur, tout le monde le dit. Voilà pour une brève description de cette histoire. Ce qui est important de souligner, c'est que tout au long du livre, il y a cette femme qui raconte sa vie, qui s'interroge, qui n'a pas compris, dit-elle, qui pense qu'elle n'a pas vu venir, enfin, il y a tout ça. Et il y a cette folie meurtrière, je le répète. Peut-être que vous allez nous dire dans quelles conditions, ou peut-être je vais vous le souffler, c'est écrit d'ailleurs dans la présentation de votre livre, cette histoire que vous nous racontez là est tirée d'un fait divers.
Oui.
Donc s'il est tiré d'un fait divers, ça veut dire qu'il vous a marqué, frappé jusqu'à l'envie de comprendre ce qui s'était passé?
Oui. Oui, alors est-ce que je dois préciser de quel fait divers il s'agit?
Oui.
C'est... Alors donc le point de référence en fait de ce texte, des gens comme eux, c'est effectivement un fait divers survenu en 2003, qu'on a appelé l'affaire Flactif, ou de manière un peu plus grandiloquente, la tuerie du Grand Bornan. Donc j'imagine que tout le monde connaît ce fait divers, donc l'histoire d'un quintuple meurtre, l'assassinat d'une famille entière, dont trois enfants en bas âge. Et donc moi ce que je raconte là, ce n'est pas une reconstitution exacte de ce fait divers. Il y a quelques éléments de cette réalité-là, mais ça n'est pas une reconstitution exacte. Donc voilà, effectivement ce fait divers m'avait frappé. Il m'avait frappé parce que je me souviens des titres à l'époque, on disait, je ne me souviens pas des titres exacts, mais exactement, mais on disait « il a tué pour un chalet ». En fait le mobile semblait être un peu, comment dire, un peu vulgaire, quoi, un peu grossier. Je me disais, c'est quand même fou. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à ce fait divers. Je suis allée voir un peu. Je me suis dit, est-ce qu'on tue vraiment pour un chalet? C'est vrai que la finalité, c'est
le chalet, ça symbolisait la richesse.
Bien sûr, la richesse et
ce grand chalet.
Tout à fait, c'était des éléments très symboliques. Mais au fond, c'était beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe que ça. S'il y avait des tas de choses imbriquées, des sentiments de fascination, de haine aussi,
de jalousie,
de désir, de jalousie, d'envie. Et puis, ça remontait aussi encore plus loin dans l'enfance. Enfin, tout ça était quand même assez, assez riche. Et donc, voilà. Voilà comment je me suis intéressée à... Et puis aussi, ce fait divers-là renferme des tas de thématiques qui sont assez récurrentes aussi dans les textes que j'ai écrits, c'est-à-dire le rapport de classe,
voilà, la différence
sociale,
la
différence sociale, l'enfermement d'une communauté sur elle-même, le racisme latent, l'apparition
la
de l'étranger,
de l'autre qui arrive, oui, parce
exactement,
que c'est de ça qu'il s'agit dans le livre.
Exactement, l'apparition de l'étranger, qui est toujours vécu comme une menace. Donc tout ça a fait que je me suis intéressée de près à ce fait divers.
Parce que dans le livre, donc, on est dans un village de montagne. Et puis quand je parle de gens de peu, c'est effectivement des gens de ce village qui se retrouvent. Ils sont amis, il y a un jeune couple, puis il y a un tandem incroyable de deux hommes là qui se retrouvent toujours au bistrot côte à côte, etc. Qui partagent les mêmes interrogations aussi par rapport à cette folie meurtrière. Mais voilà, c'est des gens.
C'est des gens de peu qui vont tout à coup arriver, voir arriver dans leur existence un
l'autre,
couple, l'autre, et qui sont absolument différents. Ils sont totalement différents d'eux. Ils sont riches, ils ont de l'argent, ils le montrent, ils invitent, ils sont généreux, ils possèdent trois voitures. Tout ça à la fois dérange et à la fois fascine. Et c'est comme une, c'est un peu la définition du fait divers en fait, c'est une rupture dans l'ordre des choses. Voilà. Et c'est ce qui va ouvrir la brèche dans laquelle va s'immiscer Constant Guillaume,
Constant,
qui est cet homme normal, mais qui va voir sa vie tout à coup fracassée à cause de cette histoire.
Voilà. Alors, après, on ne va pas la raconter, l'histoire, parce que ça serait trop. C'est beaucoup plus. À moins que vous vouliez aussi qu'on parle aussi de. Parce que la violence meurtrière, là, ce drame, on n'est plus dans le fait divers qui vous a peut-être donné envie de décrire cette histoire, mais dans votre histoire à vous, voilà, la folie meurtrière vient aussi de tout ce que vous avez évoqué, mais aussi de la particularité aussi du choix dans les personnages. Cet homme est africain.
Oui, j'ai
donc,
oublié de le
voilà.
préciser.
Donc là, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. On peut imaginer quelque chose de cet ordre-là qui va les déranger en plus.
Oui, tout à fait.
Parce que ça s'est dit hein, au bistrot. Et en plus, c'est un nègre, pour reprendre à la fois en italique ce que vous écrivez, puisque ce sont les mots du voisinage. Donc, il y a aussi quelque chose que vous avez voulu introduire, parce que c'est pas comme ça dans la réalité. Donc là, c'est vraiment dans le roman que vous écrivez cette singularité du personnage. C'est important aussi pour vous d'écrire cette dimension aussi pour que... Après, peut-être que l'interrogation, et je reviens à elle, parce qu'elle m'a beaucoup touchée, cette Anna, cette femme, puisque ça part d'une femme, hein, l'histoire, et le sature des personnages, c'est elle.
Oui.
Parce que c'est elle qui va raconter.
C'est elle. Et pour moi, c'était important que ce soit elle. Parce qu'elle a c'est elle qui porte, au fond, sur cette histoire, le regard le plus riche et le plus complexe.
Ouais.
C'est elle qui a aimé cet homme. Ouais. C'est elle qui peut-être ne l'aime plus. Elle ne sait plus.
Elle ne sait plus.
Elle sait plus.
Ouais.
C'est elle qui a vécu de nombreuses années auprès de cet homme et qui n'a rien vu. C'est elle qui ne comprend plus. C'est elle qui est humiliée. C'est elle qui reste et qui doit subir le regard des autres. C'est celle qui reste. Celle qui reste après la mort sociale de son époux, puisqu'il va être condamné à perpétuité. Et c'est, au fond, peut-être le désarroi de cette femme qu'il fallait mettre en avant pour essayer de comprendre peut-être avec des émotions un peu plus comment dire un peu plus là je trouve pas le mot mais
soutenu enfin
soutenu ou essentiel peut-être pour accéder peut-être de la part du lecteur à non pas une compréhension totale mais peut-être un chemin vers la compréhension de ce geste du surgissement de ce geste.
Samira Sedira parle des gens comme eux, c'est le titre de son ouvrage, il vient de paraître dans la collection La Brune aux éditions Le Rouergue, on la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Samira Sedira est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche et nous parlons des gens comme eux. C'est le titre de son roman, il vient de paraître dans la collection La Brune aux éditions du Rouergue. Des gens comme eux, pour les auditeurs auditrices qui prennent l'émission en cours de route, on va rappeler qu'il s'agit de votre dernier roman et qu'il s'agit là d'une écriture à travers une adaptation, en tout cas d'un fait divers qui a existé et qui est dans ce livre une écriture qui part de Anna, qui est la femme. Donc de cet homme qui a eu cette folie meurtrière. Et toutes ces interrogations. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, Samira Sedira, c'est la manière que vous avez d'être passée de l'audience à sa vie, quand elle était, vous le rappeliez avant notre coupure, que voilà, elle a raconté sa vie. Cet homme, elle l'a aimé, profondément aimé. Elle l'a choisi, elle lui courait après dans sa jeunesse. Il y avait une séduction avec cet homme. Après, il y a eu la vie ensemble, et après, il y a eu il a eu un parcours au sportif, et puis après, il a fait autre chose. Après, ils ont été ensemble dans ce village, et la suite, on l'a rappelé tout à l'heure par rapport à le fait que cet homme aujourd'hui soit condamné à perpétuité pour l'assassinat, quintuple assassinat.
Cinq personnes.
Ouais. Et Anna, sa femme, s'interroge tout le long du livre, quand elle nous raconte pas sa vie, on est dans les chapitres où elle est, où on a su l'histoire, puisque le livre commence, on est au tribunal, et donc c'est une des audiences, et voilà, et tout le monde, elle d'abord, et surtout, mais aussi le village va s'interroger sur ce qu'a fait cet homme. C'est important aussi pour vous de bien fixer Anna, et ensuite les gens autour.
Oui. Oui, c'est une interrogation sans fin, parce qu'il n'y a pas de réponse. Ça pourrait être une deuxième définition du fait divers. C'est ce qui est fascinant dans le fait divers, c'est qu'il n'y a pas de réponse. On peut le tourner dans tous les sens, on peut l'attraper par n'importe quel bout. Il n'y a pas de réponse. Et le meurtrier lui-même ne sait pas pourquoi il l'a tué. Bien souvent, il y a des cas où on a des réponses, mais en général, elles sont bien rares. Mais il était important pour moi effectivement planter la vie de ce village et de cette femme et de ce couple dans ce village tranquille où rien ne se passe.
Même la description poétique, ouais, quand même, des paysages, de la neige et du silence est importante.
Oui, oui, tout à fait.
Parce qu'il y a le silence aussi à l'audience, il y a le silence.
C'est ça. Voilà. Ça commence en été par un mariage avec une vie de village heureuse, et puis on finit ce meurtre dans ce grand silence hivernal, avec ce village sous la neige et ce village à jamais figé et glacé dans l'horreur. Et c'est vrai qu'on passe ces saisons et voilà quoi.
Et les personnages alors que vous nous plantez là, il y a Anna, donc la femme de
alors nous
meurtrier.
Avons Anna.
Il y a un jeune couple qui va se marier. Il y a le tandem rigolo.
Il y a le tandem donc c'est les ancêtres du village, ouais. C'est les deux petits vieux. L'un ne va jamais sans l'autre. Puisqu'on l'appelle, il me semble, la nouille et le gros, ou quelque chose comme ça.
Oui.
Voilà. Donc, ils sont inséparables. Ils ont même fait un peu de guerre d'Algérie ensemble. Voilà, il y a les jeunes du village. Je parle même d'une fête foraine, qui est une fête foraine annuelle. Voilà, tous ces personnages vivent ensemble.
Et quand tous ces personnages vont apprendre l'horreur, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'incompréhension pour eux
total,
aussi.
Total. le village entier et puis le groupe d'amis qui est plus particulièrement attaché au
Guillot.
Ouais, au Guillot, ouais, c'est ça. Constant Guillot qui est l'assassin, le meurtrier, et sa femme. Donc, c'est la sidération totale. C'est l'incompréhension totale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une recherche, une incompréhension sans fin, je pense qu'ils n'obtiendront jamais de réponse.
Alors, lorsqu'elle va aller pour la première fois, longtemps après, le voir en prison, là, elle fait des belles rencontres, entre guillemets, aussi, cette Anna, puisqu'elle va aller dans un hôtel et la dame dit « c'est votre père, c'est votre frère, c'est votre mari, enfin... »
Oui, on se retrouve dans un hôtel.
Où il n'y a que des gens qui vont...
Que des femmes.
Que des femmes, oui. Oui, dans les personnages que vous avez posés.
En fait, c'est une histoire d'homme. Oui. Bien que la narratrice soit une femme, mais c'est une histoire d'homme. Mmh. Et moi, je voulais qu'on finisse avec une histoire de femme.
Parce que ces trois femmes vont voir...
C'est ça. On se retrouve donc dans un hôtel. Il y a deux femmes qui viennent voir leur fils. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont emprisonnés. Cet hôtel se trouve assez proche de la prison. Donc, elles viennent visiter leur fils. Et il vient de Corse. Donc, elle passe trois jours dans cet hôtel parce que la Corse, c'est quand même loin et qu'elle a besoin d'être près de son fils. Elle est assez âgée. Elle a plus de 70 ans, je crois. Il y a aussi une femme qui vient voir son fils qui est plus jeune, qui a une cinquantaine d'années. Et il y a Anna. Et il y a aussi cette femme qui tient cet hôtel. Avec sa fille de 16 ans, qui est une jeune fille qui a l'habitude d'accueillir aussi toutes ces femmes. Qui est une
et autour de la table, on entend évidemment.
Exactement. Et elles sont cette patronne très généreuse qui propose à chaque fois à ces femmes de dîner avec elle. Donc elle prépare toujours un petit plat et elles se retrouvent. Toutes les quatre, c'est ce que je décris dans la scène finale.
Dans la
finale.
Dernière scène, oui.
Voilà.
C'est marrant de dire une scène, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comme on dirait soit un scénario, soit surtout pour une pièce de théâtre.
Voilà, oui.
Elles se retrouvent ensemble parce que il ne leur reste plus que ça, au fond. Je parle d'humanité tremblante à la fin du texte, mais c'est ça, ce qui résiste encore quand on n'a plus rien, quoi. Quand on a tout perdu. Ces femmes ont perdu leur fils. Cette femme a perdu l'amour de sa vie. Puis elle a perdu sa vie.
Elle a perdu sa vie.
Sa vie. Elle s'exile. Hein. Elle part du village. Elle habite ailleurs avec ses enfants. Elle ne voit plus ses beaux-parents. Elle ne voit presque plus ses parents. Cette femme a tout perdu. Tout perdu. Et qu'est-ce qui lui reste ? Des petites choses. Et notamment, ce soir-là, en l'occurrence, ces femmes. Mmh. Voilà, ces femmes, cette solidarité, cet amour, cette tendresse entre elles. Et puis, ce fil un peu ténu qui les lie.
Et d'une certaine manière, dans ce livre, quand on le referme, on s'interroge toujours sur, vous l'avez dit aussi, sur... on ne sait pas comment ça arrive, puisque elle s'interroge tout le temps, Anna, pour se dire, mais j'ai rien vu venir.
Je pense qu'elle s'interroge aussi sur sa responsabilité. Ce livre parle de responsabilité
bien
collective.
Sûr. D'ailleurs, ça m'avait surpris, puisque je me suis dit, en quoi elle est responsable ? Elle ne peut pas être responsable de ça, en vrai.
Si, un peu. De n'avoir rien vu, peut-être. De n'avoir rien entendu, de ne pas avoir été attentionnée. De ne pas avoir été assez présente, de ne pas avoir su détecter quelques signes. C'est souvent comme ça que ça arrive. Moi, je pense que...
Vous parlez même d'une responsabilité collective.
Oui, c'est exactement ça. Ouais. Ça résulte de ça. En fait, quand j'ai écrit ce texte, il y avait une histoire qui me... Tout au long de l'écriture, que j'ai gardée en tête. C'est un ami qui m'avait raconté ça. Il m'avait raconté qu'un jour, il devait avoir 19-20 ans, très jeune, et il décide avec un groupe d'amis d'aller sur la plage. C'était le soir, donc nuit noire, et d'être tranquille comme ça, de boire un coup. Donc, ils sont tranquilles sur la plage. Ils fument un peu de cannabis, donc ils commencent à être un peu enivrés. Et ils décident d'aller à l'eau. Et donc, mon ami me dit, je vais à l'eau. Et au bout d'un moment, je nage. Et puis, je regarde autour de moi et je ne voyais plus le rivage. Je ne savais plus par où il fallait que je nage pour rejoindre le rivage. Et là, d'un coup, il a l'idée d'appeler fort et ses amis le rejoignent et l'aident à regagner le rivage. Et en fait, l'histoire de mon personnage, lui, le problème, c'est qu'il appelle, mais personne ne vient. Voilà, personne ne vient. Alors, soit ils ne l'ont pas entendu, soit il n'a pas crié assez fort. Les signes n'ont pas été assez forts. Voilà ce que raconte peut-être aussi ce texte-là. Personne ne l'a entendu, personne ne l'a remarqué, on l'a laissé dériver et il s'est noyé. Voilà ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'est un peu ce qui s'est passé pour ce personnage-là.
Donc là, on est dans... Oui, mais...
Comme c'est un homme qui se noie seul. Je pense qu'on est responsable. On est responsable.
Si on n'aide pas, si on n'est pas à l'écoute.
Exactement. Si on n'est pas à l'écoute.
Mais elle porte vraiment très fort, Anna, cette responsabilité-là. Elle le dit, qu'il y a une insistance à dire qu'elle n'a pas vu venir.
Elle n'a pas vu venir. Elle ne l'a pas vu venir. Alors pourquoi on ne voit pas venir les choses?
Parce que l'amour débordait quand même pour elle avec lui. Après, il y avait un petit peu de...
Après, il y a une fracture nette à un moment donné. Avec cet accident. Voilà. Et parce qu'il a un accident grave. Et du coup, sa carrière sportive est totalement compromise.
Voilà.
Donc pour lui, c'est la première fracture.
Après, il a un accident. Et voilà. C'est là que...
Là, vraiment, c'est la première rupture, quoi.
La rupture avec elle et puis la rupture à lui, dans sa vie, à lui, dans son corps. Surtout à lui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Il est mal dans sa vie, il est mal dans son corps.
Et bien sûr, les répercussions après, forcément, sur elle, sur sa famille, sur sa vie, forcément, elles existent. Mais ça, c'est vraiment la première fracture. Puisqu'il était destiné quand même à être un grand sportif, un sportif de haut niveau. Et il est perchiste dans le texte. Et il a un accident et il a le bassin totalement en miettes. Et il ne peut absolument plus devenir le champion. En tout cas, pas avoir la carrière à laquelle il était destiné.
Il en aura une autre plus brillante et plus riche, puisque pour revenir au début de l'histoire, cette différence qu'il y a entre les deux couples, c'est que eux, ils sont riches du coup.
Oui.
Et voilà.
Bien sûr. Ils partent en fait de la même ligne de départ. Ils ont, je crois, la même puissance. Ils sont autant ambitieux l'un que l'autre. Je pense qu'ils pourraient arriver sur la ligne d'arrivée en même temps, sauf que pour l'un, il y a un accident, et pour l'autre, la ligne est droite. C'est ce qui les différencie. Ouais.
Et c'est qui des gens comme eux? C'est le village? C'est les...
Ça, c'est au lecteur.
C'est au lecteur, voilà. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà, parce qu'il y a les Langlois et les Guillot.
Exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment l'histoire entre ce couple.
Ces deux couples. Quoi.
Ces deux couples.
Voilà.
Ouais.
En tout cas, c'est un très, très beau texte. J'invite vraiment les auditeurs, les auditrices à le découvrir, à le lire. Et d'ailleurs, on va vous retrouver très prochainement.
Oui.
Au Maghreb des Livres, à l'Hôtel de Ville de Paris, dans le week-end du 7, 8 et 9 février.
Un grand plaisir.
Voilà, on sera nous aussi présents en direct là, pour y animer des émissions littéraires, des rencontres avec des auteurs présents à l'Hôtel de Ville. Samira Sedira, merci infiniment d'être venue ce dimanche à Beurre FM. Je rappelle le titre de votre livre, « Des gens comme eux », qui est paru dans la collection La Brune aux éditions du Rouergue. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. D'ici là, passez une bonne semaine.
Voix au chapitre sur Beurre FM.